Le retour de Boulevard. La ride parfaite pour retourner à la maison.
J'adore ce genre de moment-là dans le retour où on reçoit des... Je vais appeler ça des experts, des gens qui connaissent un sujet qu'on ne connaît pas tant, qui peuvent nous apprendre. Moi, en finance, je suis pourrie. Mais Anto, pourrie, là.
Mais pourquoi tu dis que t'es pourrie?
Mon Dieu, j'ai pas... Tu sais, il y a des gens qui sont faits pour ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont le cerveau un peu plus mathématique ou qui sont capables de s'organiser financièrement. Moi, je suis un peu... Au jour le jour, moi j'ai un alter ego, hein, puis il est vraiment dangereux. Je veux dire, si je décide ce soir qu'on se jase, puis tu me dis que ça pourrait vraiment le fun d'aller en Italie la semaine prochaine, ah ben oui, on s'en va en Italie.
YOLO. Effectivement, mais moi j'ai l'impression que les gens pensent qu'ils sont poches, mais c'est qu'en fait, ils n'ont jamais essayé. On fait beaucoup de déni dans les questions financières.
Oui, puis je pense qu'on est mal éduqué, je dis ça, je prétends, mais je pense qu'on est mal éduqué au Québec financièrement, sérieusement. Puis je sais qu'à l'école, de plus en plus, ils essaient d'incorporer ces données-là, mais tu sais, t'es jeune, tu t'en fous, rien à battre. Puis, je sais pas vous, mais moi, ça a été sur le tort de finalement faire affaire avec un planificateur financier dans ma vie. Ça a vraiment pris du temps parce que j'avais l'impression que je pouvais me gérer. Mais il y a tellement de choses qu'on sait pas. Et la chronique d'aujourd'hui, vous aurez deviné, on parle de planification financière avec Simon Tremblay, repose sur une question qu'on se pose pas mal tous quand on reçoit notre paye. Rembourser tes dettes ou investir? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qu'on priorise? Puis, on va se le dire, on est aussi dans une situation... Est-ce que je peux dire précaire? Il y a beaucoup de gens qui ont le portefeuille pas si lousse que ça, là, depuis une couple d'années. Fait que c'est quand même dur de bien prioriser. Puis c'est de ça que je veux qu'on jase. Simon, salut!
Yes, salut, ça va bien?
Ça va très bien. Je veux que tu nous éduques un peu là-dessus parce que même quand tu as un planificateur financier, même quand tu as un plan de match, des fois, tu reçois ta paye, puis on dirait, en tout cas, je vais parler pour moi, mais t'as le goût de filer un peu plus lousse, tu sais, puis de prendre les bonnes décisions, c'est pas toujours facile.
100%. Puis tu sais, pour ce que tu disais plus tôt, là, faut quand même se faire confiance là, au niveau des mathématiques, même si c'est pas nécessairement notre,
ouais, notre si
dada
c'est pas
de
naturel,
base.
Ouais.
Là, t'sais, si tu le décortiques assez, puis t'essaies de prendre une étape à la fois, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, je trouve que ce soit mathématique ou directement financier, il y a
ouais,
des beaux moyens quand même de s'en sortir.
Ma confiance m'a amené dans des très beaux trips de vie, mais jusqu'à maintenant, rien de logique pour ma retraite et mon avenir. T'sais.
C'est ça. Mais ouais, pour ce qui est de c'est se rembourser les dettes ou investir une fois qu'on reçoit une paie, ben c'est sûr que si on regarde les statistiques actuelles, les statistiques Canada, je pense, disait que les Canadiens doivent 1,80 pour chaque dollar de revenu net disponible. Fait que c'est un niveau qui est très élevé. Là. C'est le plus élevé du G7. Fait que les plus grosses puissances économiques mondiales. Fait que pour un genre de 50 000 $ de revenus disponibles dans ses poches, ben, le ménage canadien moyen, il doit 90 000 $. Fait que ça veut pas dire que tout le monde est en difficulté financière, parce que tu sais, si tu as une hypothèque ou tu as comme une dette, une bonne dette si on veut, avec un actif derrière, ben tu sais, ça peut quand même être une dette qui en vaut la peine en tant que telle.
Mais ça, je l'ai la question avant qu'on poursuive. Bonne dette versus mauvaise dette. Tu sais, c'est logique, l'hypothèque, que c'est probablement une bonne dette, mais au quotidien, tu sais, il y a la crédit qui est sûrement une mauvaise dette, j'imagine, mais qu'est-ce qui en est une bonne et qu'est-ce qui en est une mauvaise?
C'est sûr, mais tu sais, mettons une carte de crédit, tu peux l'utiliser de manière transactionnelle, puis ça peut être correct si tu payes à chaque fin de mois. Pour éviter les intérêts. Mais tu sais, une mauvaise dette, souvent, c'est comme pour des biens de consommation qui vont déprécier en valeur. Fait que tu sais, exemple, tu t'en vas manger au Subway, ben tu sais, ton Subway, tu le manges, oui, c'est bien, mais en tant que tel, après ça, t'as rien to show for it après.
Ouais.
Tandis que si t'achètes une maison, ben ta maison, elle va continuer d'apprécier, elle va prendre la valeur, tu vas développer une équité dedans. Fait que cette dette-là, elle t'a permis d'aller chercher un bien que t'avais besoin, qui va prendre la valeur, puis qui
véhicule.
Va bien comme... Oui, c'est un bon
bonne
véhicule
dette.
D'épargne dans un certain sens. Fait que tu sais, les bonnes dettes, généralement, c'est eux où quand t'achètes quelque chose, tu vas être quand même en mesure de maintenir la valeur, si on veut, du bien ou du produit que t'as acheté.
Je te suis. OK. Ouais. Fait que là, à partir du moment où on a notre paye, est-ce qu'on investit ou on rembourse? Puis qu'est-ce qui fait qu'on fait le bon choix, je vais le dire comme ça? Parce que dans ma tête, là, tout le monde doit se dire dans son char en ce moment, bien là, c'est sûr que j'imagine qu'il faut que tu payes ta carte de crédit. Tu sais, le taux est tellement élevé.
Ouais, mais c'est
que...
ça, une petite nuance, là, tu sais. Si tu as une maison et tu as un taux hypothécaire de 45%, ce qui n'est pas le cas, là, mais tu sais, c'est pas parce que tu achètes un actif nécessairement que c'est une bonne dette. Il faut quand même avoir un certain. Il faut quand même comprendre que c'est pas toujours ça, là, mais tu sais, une bonne dette, c'est souvent quand il y a un actif derrière puis le taux est relativement bas. Juste pour faire la précision. Puis pour ce qui est de quand tu vas rembourser les dettes versus faire des placements, mais c'est sûr que si, mettons, tu te ramasses à avoir des dettes à 20%, 10%, des marges comme ça, ben tu sais, c'est sûr que de placer pendant que tu as ce genre de dettes-là, c'est comme. C'est un peu comme repeindre le salon pendant que ta cuisine elle brûle, là, dans un certain sens. Là,
tu t'appauvris.
Tout va s'effondrer en tant que tel. T'as beau essayer de faire des ajustements, mais ça risque de s'effondrer ta maison quand
J'aime
même.
J'aime l'image.
Puis j'imagine qu'on priorise. On regarde, par exemple, toutes nos dettes. Puis logiquement, on regarde les taux d'intérêt les plus élevés, puis exact. On se dépêche davantage à rembourser ces dettes-là que, par exemple, un prêt d'études où les taux d'intérêt sont très bas.
Exact.
Même si on aurait le goût, des fois, de dire, ah, je vais clencher ça, puis je vais rembourser le plus vite possible parce que j'aime pas ça avoir des dettes. Ben, des fois, c'est pas nécessairement la chose à faire. Exact. Au contraire, je devrais investir mon argent plutôt que de me dépêcher à rembourser un prêt d'études.
Exactement. Fait que, c'est la méthode de prendre d'avalanche, je pense qu'on appelle. Fait que, tu prends les dettes avec le plus haut taux d'intérêt puis tu les rembourses en priorité en fonction du plus haut taux d'intérêt que tu vas avoir. Fait que, carte de crédit, marge de crédit. Ensuite, ça peut être, par exemple, le prêt auto qui va peut-être être à 6-7 %. Mais tu sais, l'idée, c'est de regarder en premier, oui, le taux d'intérêt, puis voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça, mais aussi regarder, bon, c'est quoi le admettons que tu te poses la question, est-ce que je vais investir ou je vais rembourser une dette, mais c'est quoi le risque en tant que tel, mettons que si je vais investir dans mon placement ou si je vais rembourser ma dette, c'est quoi le risque que le taux fluctue? Fait qu'exemple, mettons, quand tu fais un placement à la bourse, c'est pas toutes les années qui sont positives. Fait que pour aller chercher, mettons, un 5 % de rendement, faut quand même que tu prennes un certain risque. Mais si tu rembourses, mettons, un prêt fixe sur ton prêt auto à 5 %, t'es certain que quand tu vas rembourser ton prêt auto, tu vas aller te sauver un 5 % en tant que tel. T'sais, le code de base, c'est que, mettons, j'ai un 100 $. Si à 5 % je fais un placement, ben, je me fais 5 $. Ou si je rembourse une dette à 5 % ben, je me sauve 5 $. Fait que c'est équivalent. Puis après ça, ben, on regarde le risque, comme je disais. La liquidité. Fait que si, mettons, je rembourse mon prêt auto, ben, t'sais, mon auto, c'est bien beau, là, mais je ne vais pas la refinancer nécessairement. T'sais, ouais. C'est comme de l'argent qui est gelé là, dans mon parking, dans mon stationnement.
Ça, mettons, c'est-tu le genre d'affaires pour lesquelles on peut vous appeler un peu en panique puis dire, là, je fais quoi? Parce que, tu sais, oui, moi, tu me parles de toutes ces données-là, mettons, là, puis je suis comme, c'est bien beau, là. Mais ouais. Mon premier réflexe quand je reçois ma paye dans mon compte, c'est pas de me mettre à faire des calculs dépendamment des taux d'intérêt. C'est sûr. Fait que tu peux-tu juste appeler ton planificateur financier puis dire, là, mettons, c'est quoi la meilleure stratégie parce que je panique?
Oui, il peut vraiment t'aider par rapport à ça. Puis souvent, il y a une bonne connaissance de ta situation financière. Fait que ça lui permet de savoir pas mal déjà c'est quoi tes taux versus c'est quoi ton profil de risque, ton horizon de placement, qui sont comme des métriques un peu pour évaluer à quel point tu pourrais aller avoir un rendement espéré à élevé à long terme, si on veut, puis voir le calcul, mettons, si je rembourse mon prêt, je me fais 5 % versus si je fais un placement, je me fais 7. Fait que j'ai 2 % de différentiel là-dessus. Fait que ça pourrait valoir la peine, par exemple, d'investir dans ce cas-là. Fait que c'est toujours un peu de faire cet exercice-là.
Y a-t-il une règle? Moi, je cherche tout le temps une solution magique. Là. Je sais qu'il n'y en a pas, là. Mais tu sais, des fois, on a entendu pendant des années, puis je ne sais pas si c'est encore le cas, mettons, en immobilier, faut que ton logement représente maximum 25 % idéalement de ton salaire annuel, qui est un peu difficile à respecter. Là. Y a-t-il des pourcentages magiques quand tu reçois ta paye de quel montant tu mets sur tes dettes versus quel montant tu mets sur tes investissements?
Y a pas nécessairement une règle magique, là, je dirais, mais le but, c'est de vraiment faire son budget en tant que tel, regarder c'est quoi ses différentes entrées d'argent, ses différentes sorties d'argent, puis en fonction de sa situation puis de ses dettes, ben, de trouver une stratégie qui va être adaptée à sa situation. C'est comme la réponse plate un peu, là, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire en tant que tel. Puis je vais peut-être retoucher au point que tu as amené par rapport aux avantages fiscaux, parce que c'est un point que je voulais amener. Par exemple, si tu cotises à ton CELIAP, ben, tu as beaucoup d'avantages, mettons. Là. Fait que, exemple, que tu vas chercher quand même un rendement correct, puis tu cotises à ton CELIAP, exemple, 1 000 $, puis si ton taux marginal d'imposition, fait que ton taux d'imposition, mettons, c'est 50 %, ben, tu te récupérais théoriquement la moitié de l'argent que tu as investi dans ton CELIAP en retour d'impôt. Fait que ça peut changer le calcul en tant que tel. T'sais. Si tu investis dans ton CELIAP, ton REER, tu peux avoir une certaine rentabilité à ce niveau-là. Fait qu'exemple, tu pourrais cotiser à ton REER, puis avoir un retour d'impôt, puis après ça, prendre ton retour d'impôt pour rembourser ta dette en tant que tel, puis faire comme un peu un mix des deux.
Ça dépend des produits que tu as aussi. Là.
Il y a beaucoup de gens qui vont hésiter à vraiment se faire un budget, à regarder leurs finances. Ça peut faire peur. Des fois, on fait du déni, etc. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui doivent nous écouter parler puis se dire, ben moi, j'ai pas un revenu qui est très élevé. T'sais, moi, c'est pas des questions que je me pose parce que finalement, je dépense toute ma paye et puis je vis de paye en paye. Est-ce que tu as un message à envoyer à ces gens-là? Parce que des fois, ils vont se dire, moi, aller voir un conseiller financier, c'est pas pour moi, parce que j'ai pas un gros revenu.
J'ai pas assez d'argent, c'est vrai.
Mais dans le fond, c'est rare que quelqu'un s'assoie avec un conseiller financier puis qu'il ressort pas avec des solutions qui vont faire la différence dans le budget. Quel message tu as pour ces gens-là?
Bien, je pense que c'est vraiment important d'avoir un lien de confiance avec quelqu'un qu'on sait qui a vraiment notre meilleur intérêt à cœur. Fait que c'est trouver vraiment une personne ressource. Fait qu'un conseiller financier, idéalement, si vous en avez un dans votre entourage, une référence, puis trouver quelqu'un de confiance qui peut vraiment vous aider à travers ce processus-là. C'est sûr, c'est pas facile parce que de nos jours, la méthode de rémunération des conseillers financiers, des fois, c'est comme axé sur l'actif qu'on va avoir. Ouais. Fait que c'est un peu plate parce que certains conseillers, bon, ils accompagnent pas nécessairement les personnes.
La vente de produits, mettons.
Bien, c'est ça. Ils accompagnent pas nécessairement les personnes qui ont un petit peu moins d'argent ou qui sont plus en démarrage financier. Mais je pense que le truc, c'est trouver quelqu'un qui est bien intentionné, qui est peut-être dans votre entourage ou dans votre cadre familial.
J'en connais un qui s'appelle Simon Tremblay, si jamais.
Oui, c'est ça.
Non, mais plus sérieusement, Antoine vient d'utiliser le terme conseiller financier. Ouais. Toi, tu es planificateur financier. C'est une question qu'on a déjà démystifiée là, il y a une couple d'années avec Alex Leblond en saison régulière. Mais je pense que c'est quand même toujours bon de se le rappeler. C'est quoi la différence entre les deux, mettons? Là?
Ben, tu sais, c'est conseiller financier, c'est pas nécessairement un terme officiel. C'est un terme plus qu'on dit comme ça en tant que tel, quelqu'un qui va nous conseiller par rapport à nos finances. Mais de base, mettons, un planificateur financier, c'est quelqu'un qui a fait son parcours qui est de niveau à peu près universitaire en planification financière. Puis à travers ça, bien, il a développé des compétences dans les 7 champs de la planification financière. Fait que, ça va être, par exemple, le budget, les placements, la fiscalité, la succession, la retraite, puis plusieurs autres domaines comme ça. Puis à travers cette expertise-là, bien, le planificateur financier a une vue plus globale pour accompagner en tant que tel ses clients. Tandis que souvent, les autres type de conseiller financier qu'on peut voir, bien, ça va être par exemple conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective, qui sont plutôt comme des permis pour vendre des produits en tant que tels. Okay. Souvent, c'est un petit peu ça la différence. T'sais, je trouve que le type de planificateur financier, c'est un seuil, mettons, de savoir que la personne a fait une formation universitaire ou un équivalent en tant que tel.
C'est un seuil de crédibilité, je vais le dire à ta place.
C'est ça. Ouais.
Mais je trouve personnellement. Ouais. Pour revenir au sujet avant qu'on se laisse, qu'est-ce qui. En fait, à partir de quel taux d'intérêt on va prioriser la dette? Parce que depuis tantôt, on se dit, mettons que tu as une carte à 20%, mais tu sais, évidemment que tu vas prioriser ta dette avant d'investir. Mais y a-tu, je cherche encore mes solutions magiques, là, y a-tu un chiffre là, que tu te dis, bon, à partir, mettons, de, je sais pas moi, 7%, là, faudrait que je priorise ma dette? Là.
Ben, tu sais, y a pas de chiffre magique, puis ça dépend toujours, mais c'est sûr que, mettons, à partir de moi, on dirait que dans ma tête, mettons, à partir de 5%,
c'est tannant.
C'est tannant, là. T'sais, à partir de 5%, c'est tannant. Généralement, la bourse, bon, si t'es 100% action, t'es risqué, tu vas aller chercher peut-être un genre de 7% annualisé, peut-être un petit peu plus. Mais en tant que tel, moi, je dirais que 5%, peut-être que dans ma tête, c'est un petit peu le chiffre, mettons, que pour moi, je trouve que ça commence à être une dette qui est relativement élevée. Puis, un genre de 4-5%, je serais à l'aise. 2%, c'est bien correct. Mais tu sais, si on monte dans le 6-7, il faut quand même que tu fasses des investissements risqués. Il faut quand même que. Je trouve que c'est plus difficile à aller chercher, de battre un peu ce taux-là là, de manière constante sur le long terme en tant que tel.
Je te suis. Mais je trouve ça bien parce que tu vois, moi, mettons, qui n'est pas super bonne avec les chiffres et avec les finances, d'avoir un seuil comme ça, ça me donne au moins une idée quand je regarde mes affaires. Tu as l'habitude depuis 2 semaines, c'est notre 3e semaine, de nous proposer un devoir en terminant. J'ai envie que tu nous dises par où on commence cette semaine.
Ben, tu sais, c'est quand même vraiment simple, mais c'est vraiment, si vous avez des dettes là, qui dépassent 10, 12 % ou même mon 5 que je viens de mentionner, là, essayez de le prioriser le plus possible parce que oui, c'est cool de faire des investissements, puis souvent, c'est plus, si je peux dire, comme sexy en tant que tel, faire des investissements, mais si vous avez des dettes là, qui ont des hauts taux d'intérêt qui traînent, commencez par prioriser ça, puis ça va vraiment vous aider dans votre situation financière, puis vous pourrez ensuite faire des investissements une fois que votre base puis votre fondation est mieux construite.
Fait qu'on sort nos relevés, on appelle un planificateur financier, puis on s'y met la gang, OK? Simon Tremblay, planificateur financier. Toujours un plaisir, merci encore.
Un plaisir, merci.
Passez une belle journée. Vous êtes dans le retour de Boulevard 102.1. En passant, la programmation régulière, qui, j'allais encore dire, gravé dans le retour, je suis tatouée sur le cœur, là. La programmation régulière qui revient officiellement le 10 août. Gravé dans le retour se réinstalle, par exemple, à partir du 3. Donc, d'ici là, on s'accompagne avec Max Larouche, Antonine Iaccarini, jusqu'à 18h dans le retour de Boulevard.
Le retour de Boulevard. 100% parlé. Tout l'été. Saint-Hubert et BMR vous offrent son corps fort. Pendant les vacances de la construction, à l'achat d'une cuisse ou d'une poitrine en salle à manger ou au resto pub Saint-Tube, votre frite sera rénovée gratuitement en poutine.
On pense pas que c'est le bon temps pour changer d'auto. Vraiment pas. La vie coûte cher, faut savoir bien dépenser. Mais admettons que vous voulez changer de voiture, tous les constructeurs auront un bon véhicule à vous offrir. Mais si vous en voulez un qui est mieux, c'est le Crosstrek Hybrid 2026 à partir de 144 $ par semaine en location. Et c'est disponible dans